Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour à tous. On a parlé de naufrage pour qualifier la médiation de l'américain John Kerry entre Israël et les Palestiniens. Démarrée en juillet 2013, la négociation s'est officiellement terminée le 29 avril dernier sur un échec. Pour faire le point, Géopolitique profite du passage à Paris de l'historien Yaakov Rapkin, enseignant à l'Université de Montréal, dont le dernier livre « Comprendre l'État d'Israël » vient de paraître aux éditions Éco-Société. Votre précédent ouvrage « Au nom de la Torah, une histoire de l'opposition juive au sionisme » a été traduit en une douzaine de langues. Bonjour Yaakov Rapkin.
Bonjour.
Et en ligne depuis le Maroc, Jean-Paul Chagnelot, professeur des universités, directeur de l'IREMO, l'Institut de recherche et d'études sur la Méditerranée et le Moyen-Orient. Bonjour.
Bonjour.
2014 devait être l'année de l'État palestinien, c'est ce qu'avait fait miroiter le secrétaire d'État américain John Kerry à l'été 2013, au moment de la reprise des négociations entre Israéliens et Palestiniens pour une durée fixée à 9 mois. Les délégations israéliennes et palestiniennes ont eu plus d'une dizaine de rounds de négociations, essentiellement à Jérusalem-Est. Au fil des rencontres, de nouveaux problèmes venaient à chaque fois s'ajouter, pour n'en citer que quelques-uns. Côté israélien, dégel de la construction de colonies, côté palestinien, refus de reconnaître Israël à titre d'État hébreu. Et le 23 avril, Israël a carrément suspendu sa participation aux négociations après l'annonce d'un accord de réconciliation entre l'OLP et le Hamas. Qu'avez-vous envie de dire l'un et l'autre à propos de ces négociations et de leurs résultats, Yaakov Rapkin?
Je crois que les négociations n'avaient pas beaucoup de chances de réussir. Et je dirais que le problème est fondamental, c'est le déséquilibre de force entre les deux parties. Israël, c'est un État puissant, bien armé, économiquement très prospère. Les Palestiniens, d'abord, ce n'est pas un État. Et deuxièmement, ils sont beaucoup plus faibles parce que le mot « l'autorité palestinienne », en fait, nous mène à une certaine confusion. N'importe quel soldat israélien sur les territoires palestiniens a plus de pouvoir que le président de l'autorité palestinienne.
Jean-Paul Chagnelot.
Écoutez, je ne peux qu'être d'accord. Bien sûr, nous sommes dans une asymétrie complète. Le terme même, d'ailleurs, de conflit israélo-palestinien est un contresens sémantique parce qu'on a le sentiment qu'il y a deux acteurs qui sont sur le même plan, alors qu'en réalité, il y a d'un côté une puissance occupante et de l'autre un peuple occupé. Et dès lors, si on, dans les négociations, on ne réintroduit pas des éléments qui permettent de rééquilibrer tout cela, de faire en sorte que cette asymétrie le soit quelque peu corrigée par d'autres facteurs, eh bien évidemment, on court droit à l'échec, malheureusement. Et Kerry a repris les mêmes paramètres que par le passé, en refaisant les mêmes erreurs, et en particulier, j'en citerai au moins deux qui étaient patentes dès le début. La première, c'est que il n'a rien fait, évidemment avec l'échec d'Obama quelques mois plus tôt, mais il n'a rien fait pour faire en sorte que la colonisation s'arrête, qu'il y ait un moratoire, vous vous souvenez tout ce débat qui a eu lieu en 2009. Donc dès lors, la colonisation a continué et l'asymétrie n'en était que plus importante. Et puis la deuxième erreur, c'est que rien n'a été dit sur le droit international. Je ne dis pas les dimensions très spécifique de tel ou tel aspect du droit international, mais quelques principes de base, et en particulier, à mon sens, le plus important, c'est-à-dire le principe de non-admissibilité de territoire par la force, qui est consacré notamment dans la résolution 242. Donc si on ne part pas sur des bases comme ça, qui disent arrêtons la colonisation, au moins pour un temps, et deuxièmement, basons-nous sur des principes fondamentaux du droit international, il est bien clair que si on ne fait pas, on n'a pas un accord là-dessus, tout le reste part en cendres.
Yaakov Rapkin, vous partagez ce que disait à l'instant Jean-Paul Chagnelot sur notamment le rôle et les erreurs de John Kerry.
Bon, je crois que le droit international ne peut être appliqué que quand il y a un équilibre de force. Le droit international peut jouer un rôle lorsque, par exemple, les États-Unis ne se sentent pas le seul acteur international de poids. Et je vous rappelle que les négociations, la conférence de Madrid, qui en fait démarrait le processus qui maintenant est devenu ensuite un échec, les négociations de 1991 ont eu lieu parce que encore il y avait un certain équilibre entre l'Union soviétique qui arrivait à sa fin, mais tout de même existait, et les États-Unis. Dans le contexte unipolaire dans lequel nous vivons depuis plus de 20 ans, en fait, même si cette asymétrie n'existait pas, je ne vois pas pourquoi Israël serait intéressé à négocier.
Vous voulez dire qu'il n'y a plus de pression ?
Il n'y a pas de pression et je vois mal d'où pourrait venir cette pression. Parce que même si la politique des États-Unis devient un peu plus, disons, insistante par rapport à Israël, Israël a des rapports très importants avec la Russie, avec la Chine, avec l'Inde. Donc c'est un pays qui a bien structuré sa politique extérieure pour ne pas dépendre uniquement de leur allié américain, qui est bien sûr le plus puissant et le plus important, mais n'est pas le seul.
Jean-Paul Chagnolot, un commentaire ?
Quand je parle de droit international, il faut que les choses soient claires. Nous sommes dans une phase où finalement, quelles que soient les configurations, bien souvent, par une forme de pusillanimité, les chefs d'État ont tendance à marginaliser les principes fondamentaux du droit international. Et je crois que c'est assez grave, parce que du coup, lorsqu'on veut négocier sur une question difficile, eh bien, on oublie progressivement quelques principes qui sont quand même des principes majeurs pour que la communauté internationale puisse tenir. Sinon, on va vers un délitement qui peut être extrêmement préoccupant. Et je pense que entamer des négociations, comme ça a été fait avec John Kerry, sans qu'au départ on rappelle les principes de base, comme celui que j'ai évoqué tout à l'heure sur la non-admissibilité de l'acquisition de territoire par la force, si on n'est pas d'accord là-dessus, ça peut être dit de manière très diplomatique, on peut y faire allusion de mille et une façons, mais comment peut-on ensuite espérer arriver à un accord ? Et ce qui s'est passé, c'est qu'au fond, on passe à d'autres sujets. En réalité, on n'a pas parlé des questions fondamentales, autant qu'on puisse le savoir. On a parlé de cette question de l'État juif, la reconnaissance d'un État juif qu'exigeait Netanyahou. On a parlé de la sécurité sur la vallée du Jourdain. Bref, on était déjà dans une autre problématique que les Palestiniens ne pouvaient en aucune manière accepter, car c'était encore reculé, et Dieu sait si ils ont eu beaucoup d'occasions de reculer. Donc je crois que c'est ça. Si on ne pose pas clairement les bases d'une négociation, à la limite, cette négociation est inutile, c'est ça que je voulais dire. Et donc, effectivement, ensuite, il n'y a aucune pression, et globalement, il y a une domination israélienne sur tous les plans qui s'impose, d'autant plus que, quand je parlais de pusillanimité, on n'a pas encore dit un mot de l'Europe, mais il est évident que l'Europe, là-dedans, n'a joué strictement aucun rôle, et que les quelques voyages des uns ou des autres, notamment celui de Hollande au mois de novembre, n'ont strictement rien à porter dans cette affaire.
Donc manque de pression et manque de volonté politique, Yaakov Rapkin.
Oui, mais il faut aussi comprendre que dans les cercles politiques israéliens, le droit international n'a jamais joué un rôle important. Déjà depuis Ben-Gurion, depuis le premier ministre, on s'appuyait beaucoup plus sur le fait sur le terrain que sur le droit international. Et même l'acte fondateur, qui est la résolution des Nations Unies de 1947 sur le partage de la Palestine, n'oublions pas, c'était un acte qui a servi, bien entendu, de base légale ou légitimisante plutôt pour proclamer l'État d'Israël. Mais en fait, c'était une résolution adoptée par les Nations Unies, par l'Assemblée générale, contre la volonté de la majorité de la population et contre la volonté de tous les pays avoisinants. Un acte qui, aujourd'hui, pourrait paraître un acte parfaitement colonialiste.
Jean-Paul Chagnolot ?
Sur la question du droit international, c'est vrai, bien entendu, que Israël n'en tient pas compte. C'est assez marginal dans sa stratégie. L'important, et depuis le début, pour l'État d'Israël, c'est effectivement des faits accomplis. Et puis, ces dernières années, c'était vraiment poser les principes d'un rapport de force sur lequel il s'appuie avec beaucoup de subtilité et d'intelligence politique d'ailleurs, parce que ça fonctionne très bien. Mais c'est pas parce qu'il y a un acteur des relations internationales qui piétine ainsi ou ignore les règles du droit international que d'autres acteurs doivent en faire autant et les ignorer. Il y a eu un exemple très très caractéristique, c'est que lorsque le président Hollande est venu en Palestine et, lors de son discours à Knesset, en novembre dernier, il a pas fait allusion au droit international, parce que d'après ses collaborateurs, il ne voulait pas froisser les Israéliens. Donc c'est extrêmement délicat d'affirmer une telle chose. Ça veut dire que finalement, les principes du droit international qui ont mis tant de temps à se construire et qui restent fragiles, dans une affaire comme celle-là, le droit international est complètement mis de côté. Et je crois que c'est vraiment une erreur fondamentale. Et du coup, nous sommes dans un rapport de force à l'État pur. Et un rapport de force à l'État pur, ça conduit effectivement à une domination d'Israël, mais à terme, parce que je crois qu'il faut voir les choses, à terme, cette domination va s'effriter. On ne construit rien sur le long terme uniquement par la force. Je crois que l'histoire nous l'a appris. Et si j'étais israélien, je serais inquiet de voir que justement on récuse tout ce qui peut faire qu'une communauté internationale peut vivre ensemble. Alors ça peut durer encore très longtemps, bien entendu, mais forcément il y aura des lendemains extrêmement tragiques qui risquent de s'annoncer si on ne pense qu'en termes de rapport de force.
Jacob Rapkin, vous ne sembliez pas d'accord avec ce que vient de dire Jean-Paul Chagnolleau ?
Non, moi je dirais que le droit international actuellement est ignoré non pas seulement par Israël, mais par les États-Unis. Et donc il y a une certaine israélisation de la politique étrangère des États-Unis, non pas dans le sens du complot, etc., mais les États-Unis, d'une certaine façon, ont appris la leçon d'Israël, qu'on peut ignorer le droit international, et justement l'attaque américaine contre l'Irak est un très bel exemple de cela. Nous vivons actuellement dans le contexte d'une crise à l'Ukraine, et là vous voyez très bien que le droit international ne joue strictement aucun rôle, parce qu'on reconnaît le coup d'État à Kiev, mais on ne reconnaît pas exactement la même procédure qui a eu lieu à l'est de l'Ukraine, en Crimée.
Le deux poids, deux mesures, c'est
exactement.
Ça que j'entends.
Et c'est ça, quand on a deux poids, deux mesures, on ne peut pas parler du droit international. C'est dans ce sens-là que je crois c'était très sage de la part du président français de ne pas mentionner le droit international, parce que ça ne fait que sourire ses interlocuteurs israéliens.
Alors, pour aller plus loin peut-être sur cette question du droit international, j'aimerais parler d'un aspect de votre livre, Jacob Rapkin, et j'anticipe un petit peu sur le déroulé, mais ensuite on reviendra sur les raisons pour lesquelles l'État juif n'est pas acceptable pour les Palestiniens. C'est la notion de frontière. Vous faites ressortir du portrait que vous dressez d'Israël un État sans frontières, et vous soulignez que les premiers sionistes et les dirigeants successifs d'Israël se sont toujours gardés de définir les frontières désirées pour leur État. Qu'est-ce que l'on peut dire finalement de l'idée de cette réalité ?
Je crois que c'est une réalité qui existe depuis plus d'un siècle. On parle d'un État pour les Juifs, on n'a jamais parlé de l'État juif, parce que même le livre fondateur de Herzl était Judenstaat, donc c'est un État pour les Juifs. Mais surtout, on ne voulait pas dire quelles sont les revendications territoriales. Et c'est ce qui a permis, justement, les dirigeants israéliens d'accomplir tout de même quelque chose de remarquable. C'est l'expansion continue des territoires avec la colonisation des terrains palestiniens. En fait, c'est la politique depuis un siècle d'avoir le maximum de territoires avec le minimum d'Arabes. Et je ne vois pas de grands changements depuis un siècle. Donc il faut tout de même reconnaître qu'il y a une cohérence impressionnante de la part des cercles dirigeants d'Israël qui agissent en conformité avec la tradition sioniste de ne pas dévoiler ses plans, mais d'agir d'une façon cohérente et très patiente.
C'est la politique du fait accompli que vous évoquiez tout à l'heure, Jean-Paul Chagnolleau ?
Ah oui, bien sûr, il suffit de regarder la carte pour voir à quel point ce processus a été entamé au début du siècle dernier. Il y a eu tout de même l'évocation, sinon d'une frontière, en tout cas d'une délimitation territoriale au moment de la conférence de la paix, qui porte bien mal son nom d'ailleurs, de 1919, à Versailles, où les différentes délégations de la région, dont une délégation sioniste, apportaient leurs revendications et avec des cartes. Et les mouvements sionistes avaient indiqué à peu près l'idée de ce qu'ils souhaitaient. Ça allait à peu près jusqu'à Amman, pas tout à fait, jusqu'au chemin de fer du Hedjaz, et puis une partie du Liban actuel. Mais c'est vrai qu'il n'y a jamais eu de délimitation de frontières de ce point de vue-là, et que c'est effectivement, du point de vue stratégique, une façon de faire très cohérente. Et d'ailleurs, la colonisation aujourd'hui est finalement le prolongement de ce qui s'est passé à l'époque du mandat sur beaucoup de points. Et j'étais encore récemment dans un débat où on rappelait le plan de Robles de 1979, c'est-à-dire quelque temps après l'arrivée de Begin et du Likoud au pouvoir, où le plan de Robles voyait la colonisation des territoires palestiniens à l'horizon début du XXIe siècle, avec l'idée qu'il y aurait 1 million d'Israéliens qui seraient dans ces territoires et qu'il y aurait ainsi un développement d'Israël. C'était noir sur blanc dans les documents très officiels que l'agence juive diffusait à l'époque. Donc c'est vrai que c'est cette démarche-là, mais en même temps cette démarche-là, elle est fondée sur une chose qui est le rapport de force. Si un jour le rapport de force vient à fléchir, vient être remis en question, eh bien tout ceci risque d'être totalement remis en question, et je crois que c'est très important. Quand vous évoquiez le sionisme, j'ai en tête la phrase du philosophe israélien Leibovitz qui disait « Je suis sioniste jusqu'aux frontières de 1967 ». Et je crois que c'est ça, tout le problème est là, il faut savoir s'arrêter à un moment donné, car sinon, effectivement, ça crée tellement de violence et de frustration qu'il y aura un jour, forcément, à nouveau, des tragédies qui vont s'ouvrir, parce qu'on ne peut pas ainsi imposer le rapport de force pendant si longtemps, même si ça fait malheureusement les décennies que ça dure.
Mais justement, c'est ce qu'avertissaient les grands esprits en 1948, notamment Hannah Arendt et Albert Einstein, qui avertissaient que si vous déclarez un État, en fait là je vais au-delà de ce que disait le professeur Leibovitch, que j'ai connu personnellement par ailleurs, c'est que l'État est basé sur l'application de la force, et du moment où il a été annoncé qu'il y aurait un État israélien, donc le 15 mai 1948, c'était clair, ça va être basé uniquement sur la force militaire. Et donc, ça a eu des répercussions pour la société israélienne qui devient de plus en plus militariste dans ses valeurs, qui, d'une façon continue, bouge vers la droite politique. Et ceci, de nouveau, est un processus qui dure depuis, au moins depuis 60, 70 ans. On disait auparavant qu'il y avait une différence importante entre Jabotinsky et Ben-Gurion, les deux fondateurs d'Israël. Mais je crois qu'en réalité, ce que je dis dans mon livre, les différences n'étaient que rhétoriques. Et ce qu'on voit également dans le comportement des deux partis principaux en Israël, en fait, sous les travaillistes, les territoires qui étaient conquis en 1967 étaient colonisés d'une façon plus intensive que sous les gouvernements, soi-disant, de la droite. C'est pour ça qu'à mon avis, il faut voir cette continuité, cette cohérence qui vraiment ne dépend ni des noms de Premier ministre, ni voire des noms de partis.
Alors, pour terminer cette première partie... Oui, Jean-Paul Chagnolot.
Oui, sur la notion d'État, je crois qu'il est vrai que les États, quels qu'ils soient, se sont la plupart du temps construits sur la force. Enfin, il y aurait beaucoup à dire là-dessus, bien entendu. C'est bien souvent les guerres qui font les frontières. Mais il se passe quelque chose de décisif à un moment donné. C'est qu'il y a un traité de paix. Et la cartographie territoriale et géopolitique, elle se solidifie, elle se cimente à partir du moment où il y a le traité de paix. Un traité de paix qui est signé. Et, pardonnez-moi, mais on revient au droit international. Et à ce moment-là, il y a une... Enfin, en tout cas... Dans une certaine mesure au moins, il y a une stabilisation qui s'opère et surtout il y a une légitimité qui s'impose. Et ça qui est important. Et aujourd'hui, l'État d'Israël a signé un traité de paix avec la Jordanie, il y a donc des frontières avec la Jordanie, elle a signé un traité de paix avec l'Égypte, c'était moins compliqué encore qu'à l'époque, ce le fut beaucoup, mais il y a des frontières, donc il y a des frontières du côté de la Jordanie, il y a des frontières du côté de l'Égypte. La vraie question, c'est les frontières dans la Palestine, c'est ça qui est aujourd'hui problématique, et c'est ça qui, je le répète, tant que ça ne sera pas stabilisé par un traité de paix qui fera qu'il y a deux peuples avec deux États sur ce territoire, on ira de violence en violence. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne voit pas quand ça pourra se faire entre la communauté internationale qui refuse, pour plein de raisons, de faire pression sur Israël, et une société israélienne qui, au moins, est depuis, disons, la deuxième intifada, depuis les années 2000, s'est vraiment beaucoup radicalisée.
Alors, on va terminer sur cette notion de violence. En tout cas, c'est cette question. Est-ce qu'elle est à craindre, cette violence, Yaakov Rapkin? Ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que les Palestiniens, de fait, étaient plus faibles aujourd'hui qu'ils n'ont été dans le passé. Est-ce que l'instabilité peut apparaître aux yeux des Palestiniens comme un élément qui leur permettrait de parvenir à leur fin, pour terminer cette première partie?
Je crois que quand on parle de la violence, de nouveau, il faut souligner que la violence est très asymétrique. Donc on a des bombes pendant l'intifada, on a des attaques de petites roquettes fabriquées à la maison du côté palestinien, et puis on a l'équipement militaire le plus sophistiqué au monde de l'autre côté. Et ce qui, justement, la dernière attaque contre le Gaza a démontré qu'il y avait 1400 victimes du côté palestinien et 9 du côté israélien, dont 4 par les forces israéliennes elles-mêmes.
Donc là aussi, un rapport de force évidemment très inégalitaire, Jean-Paul Chagnolot.
Oui, juste un mot pour rajouter à cela, c'est que l'asymétrie est aussi sémantique, c'est-à-dire que le même acte n'est pas perçu, n'est pas conceptualisé, notamment en Europe, de la même manière. Et on retrouve le débat classique sur le terrorisme. Lorsqu'il y a 1400 morts, c'est la guerre. Lorsqu'il y a quelques morts du côté israélien, ce sont des terroristes. Ça rajoute encore à ce profond déséquilibre qui structure le conflit israélo-palestinien.
Géopolitique, nous retrouvons nos invités Jean-Paul Chagnolot et Yaakov Rapkin dans quelques instants. À tout de suite.